Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 5 novembre 1986.
Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas du tout. C'est une quiétude psychologique qui n'a rien à voir avec la prière. Le temps qu'on consacre à Dieu pour l'oraison, pour la méditation, doit être consacré à Dieu, c'est-à-dire qu'on doit être actif. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu nous demande d'être actif. Et on devient passif, la passivité, que lorsque le Saint-Esprit lui-même nous met dans cette passivité, on ne s'y met pas nous-mêmes. Ça, Sainte Thérèse est net. Et il n'y a pas que Sainte Thérèse, tous les auteurs spirituels. Donc, il y a une raison acquise, c'est la méditation qui tend vers une prière plus intérieure. Et ça peut être certaines contemplations acquises. Et puis, il y a l'oraison infuse, c'est cette oraison de quiétude, où l'Esprit Saint prend lui-même les commandes et peut se faire dans cette oraison de quiétude. L'Esprit Saint qui nous y a mis nous demande d'avoir l'humilité de retourner à l'oraison active, acquise. C'est pour ça qu'il se tait. Parce qu'on risquerait de se glorifier. Dire à moi, j'ai qu'à entrer dans la chapelle, puis tout de suite, l'oraison de quiétude, tout ça. C'est ma grâce, comme une âme d'oraison. Ah oui, une âme d'oraison. Qu'est-ce que ça veut dire, une âme d'oraison? Théologiquement parlant, l'âme non supponite, oraison infuse. Vous voyez, c'est-à-dire, logiquement parlant, l'âme ne peut réaliser que une méditation, une oraison acquise. Ça oui. Nous pouvons méditer quand nous voulons, grâce à la philosophie, grâce à la théologie. On peut méditer quand on veut. L'oraison infuse, ça vient du Saint-Esprit, directement. Alors on a des dispositions. On peut dire qu'une âme est disposée à une oraison infuse, ça oui. Mais elle est disposée grâce à son labeur. Elle n'est pas disposée naturellement. Elle n'a qu'une capacité obédiencielle. Capacité à la grâce. Elle n'est disposée que parce que, de fait, elle a exercé la méditation, la lectio divina, qu'elle s'est exercée à la théologie et même à la philosophie. C'est une préparation. Ça dispose à être plus disponible parce que les études de théologie et de philosophie ont l'immense avantage de canaliser l'imagination. Faire un effort de philosophie. Et quand vous essayez d'écouter les cours de philosophie, même quand vous êtes en première année et que vous n'y comprenez pas grand-chose, ce qui arrive, ils s'écoutent. Tu es très touché de leur bonne volonté. Ça touche énormément votre ange gardien. Là. Il n'y comprend rien, mais il fait semblant. Il a l'air s'intéresser. C'est déjà très bien. C'est merveilleux. Il est là. Il écoute. De temps en temps, une petite étincelle. De temps en temps, quelque chose qu'il comprend. Vous savez, j'ai cette expérience. Hein, quand j'étais chez les Dominicains, c'était mon frère qui faisait la philosophie. Au bout du premier cours, c'était un cours de logique, je me souviens très bien. C'était un cours de logique. J'ai dit après le cours, mais je n'ai rien compris du tout. Alors il m'a simplement dit, tu crois que je fais le cours pour toi? J'étais en première année parce que j'entrais. Et il avait deuxième et troisième année. Ici, on a quatrième année. Alors vous voyez bien, on est bien obligé de faire le cours pour ceux de 2, 3 ans, 4 ans. On essaie qu'ils soient adaptés dans un sol ou bien de temps en temps. Mais on note les noms, les mots barbares quand on écoute. On les note. Et puis il y a un parrain qui est là pour dire aux Huso, t'inquiète pas. C'est un mot qui est né de l'hérésie. Alors, subjectivité transcendantale. Mais le simple fait d'écouter des cours de philosophie spéculative purifie notre imagination. Ça, c'est net. Mais tandis qu'au contraire, quand vous regardez la télévision, pas ici, mais avant, du soir au matin, vous cultivez votre imagination. Quand vous lisez des romans policiers, vous cultivez votre imagination. Dans un mauvais sens, parce qu'on peut la cultiver d'une façon qui est bonne. Vous la laissez pousser dans tous les sens. Tandis que les cours de philosophie spéculative, même si on ne comprend pas tout, ça pacifie notre imagination. Parce que c'est un appel à l'esprit. Dans un esprit de soumission, d'obéissance. Alors c'est bon. Et c'est la grande manière, petit à petit, de canaliser son imagination. Parce qu'il faut bien se dire, le grand ennemi de leur raison, c'est l'imagination. Ça, c'est l'ennemi numéro un. Parce que dès qu'on arrête le travail, immédiatement, l'imagination commence. Alors, c'est l'ennemi numéro un de l'oraison et de la méditation, donc d'une vie intérieure qui essaie de ne plus être attentive aux choses de l'extérieur. Quand vous faites oraison à la chapelle, vous ne regardez pas d'une façon attentive votre voisin. Non, vous essayez de fermer les yeux, vous essayez de faire un plongeon en avant, et vous ne regardez pas la terre, quoi. Donc, il y a les sens externes qui sont sevrés. Il y a un sevrage des sens externes. Le sevrage des sens externes fait que l'imagination commence à battre la campagne. Forcément. Puisque la nature horreur du vide. Le sevrage des sens externes augmente l'imagination. C'est pour ça qu'on n'a jamais tant pensé aux oignons d'Égypte et aux petits pois chiches qu'en vie religieuse. Si c'est évident. Parce qu'en vie religieuse, il n'y a pas les distractions habituelles. Alors, immédiatement, on pense aux oignons d'Égypte. Ça ne peut pas être autrement. Ça n'y a jamais pensé avant. Parce que, de fait, avant, les sens externes étaient arrêtés à des tas de choses. Tandis que, là, l'imagination commence à battre la campagne. Tout de suite. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. C'est forcé, Dieu le sait bien. Dieu nous a donné une imagination. Non pas pour avoir des distractions. Mais pour que nous arrivions petit à petit à la canaliser. Parce que le démon agit sur l'imaginaire. Il ne peut pas agir sur l'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence, c'est du temps de gagner sur le démon. Quand vous faites de la métaphysique, c'est du temps de gagner. Tandis que l'imaginaire, le démon essaie. Hein. Et puis il fait mousser l'imagination. Oh, c'est une façon étonnante. Parce qu'il est le prince de l'imaginaire. Et il domine dans l'imaginaire. Et c'est pour ça que pour lutter, on fait des actes d'amour, des actes d'adoration. Et quand on écoute un cours, ça nous aide. On assainit le terrain. On enlève les fièvres paludiennes de l'imaginaire. Dès que vous essayez de faire de la métaphysique, c'est pour ça que les carpes de Salamanque, je vous l'ai déjà dit, considéraient que faire des études spéculatives de philosophie et de théologie seulement des moments de quiétude, mais c'est presque comme un état de quiétude. C'est comme une espèce de plongée vers quelque chose qui est beaucoup plus fort encore. Alors je vais vous lire quelques passages.
Et cependant, je ne pouvais saisir le mode de son action.
extrême de l'avoir enfin compris. Béni soit le Seigneur qui m'a accordé un tel bienfait. Les puissances de l'âme n'ont alors d'autre liberté que celle de s'occuper entièrement de Dieu. Mais saisi de l'intérieur. Vous avez dit, c'est de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est la différence avec quand on est attentif à regarder quelque chose. Aucune d'elles, ce semble, n'ose remuer. Il nous est même impossible de les mouvoir. Faudrions-nous mettre toute notre étude à nous distraire, que nous ne pourrions alors, ce me semble, y réussir tout à fait. Nous prenons alors beaucoup de paroles à la louange de Dieu, mais sans ordre, à moins que Dieu s'en mette. Du moins, l'entendement est impuissant à le faire. L'âme souhaiterait proclamer bien haut la gloire de son Dieu. Elle est hors d'elle-même, en proie au délire le plus suave. Déjà, les fleurs commencent à s'épanouir et à répandre leur parfum. L'âme voudrait que tous les hommes puissent alors la contempler et comprendre la gloire à laquelle elle est élevée, afin d'en louer Dieu et de l'aider elle-même à le glorifier. Oui, cette espèce, on peut dire, cette sorte d'enivrement intérieur dans l'ordre de l'amour. Je crois que c'est vraiment ça qui caractérise ce que Sainte Thérèse veut nous dire. Et un peu plus loin, je vous lis encore ce passage. Votre servante, ô mon Dieu, ne peut plus supporter ce tourment extrême de se voir sans vous. Si elle doit vivre, elle ne veut plus de repos ici-bas. Mais tout le repos est intérieur. Et donc tout ce qui n'est pas ce repos intérieur, tout ce qui n'est pas cette union profonde avec Dieu, devient quelque chose d'insupportable. Si elle doit vivre, elle ne veut plus de repos ici-bas. Vous, ô mon Dieu, ne lui en donnez pas. Cette âme voudrait déjà jouir de sa liberté. Le manger la tue, le dormir la tourmente. Elle voit que le temps de la vie se passe à prendre ses aises, et cependant rien hors de vous ne peut désormais la satisfaire. Il lui semble qu'elle mène une vie contre nature, car elle ne voudrait plus vivre en elle-même, mais en vous seul. Ô vrai Seigneur, ô ma gloire, quelle croix légère et pesante, tout à la fois, vous procurez à l'âme ainsi favorisée. Légère, parce qu'elle est suave, pesante, parce qu'il est des circonstances où elle ne peut la supporter et voudrait cependant n'en être jamais affranchie, si ce n'est pour se voir déjà éternellement avec vous. Quand elle se rappelle qu'elle ne vous a servi en rien, et qu'en vivant encore ici-bas, elle peut travailler pour votre gloire, elle voudrait porter un fardeau beaucoup plus lourd et ne mourir qu'à la fin du monde. Vous voyez, ça c'est très très beau, de voir que cet amour intérieur augmente le zèle du service. C'est le signe, ça, que cette oraison est vraiment une oraison divine. Vous voyez, quand de fait il y a comme une espèce d'engourdissement, quand l'imagination peut arriver quelquefois à nous mettre dans un état un peu de marmotte endormie, alors on n'a aucun zèle. Tandis qu'au contraire, la véritable oraison vous donne un zèle apostolique, un zèle de service. On désire servir Dieu, on désire servir ses frères. Vous voyez, et elle va très loin, puisqu'elle dit que l'âme alors voudrait bien ne mourir qu'à la fin du monde. Oui, c'est tout à fait ce que dit saint Paul. Désirer partir pour être lié avec Jésus. Mais si Dieu veut qu'on soit utile à ses frères, on l'accepte autant de temps qu'il voudra. Il n'y a pas de dégoût à l'égard du service. parce que le service fait partie de la charité fraternelle. Oui, ça, je crois que c'est ça, ce réalisme de l'amour divin, vous voyez. Tandis que quand c'est un tout petit peu avec de la ouate ou de la vaseline, alors à ce moment-là, on voit très bien que on n'a plus le même accrochage par rapport aux réalités. On vit en somnambule. C'est pas la du tout cette grâce d'enracinement en Dieu. Plus on est enraciné en Dieu, plus Dieu s'enracine en nous, plus il y a ce réalisme du service. Elle ne se préoccupe nullement de son repos, pourvu qu'elle puisse vous rendre le plus léger service. Elle ne sait ce qu'elle doit désirer, mais elle comprend très bien qu'elle ne désire que vous. Elle n'est pas attachée au service, elle le fait pour rendre service et pour glorifier Dieu. Il n'y a plus d'œuvre. Elle ne se donne pas pour réaliser une œuvre, non, non. Elle se donne pour servir Dieu, comme Dieu voudra, avec générosité et dans la pauvreté totale. Ô mon fils, vous à qui j'adresse cet écrit, donc c'est pour nous aussi, hein, que vous m'avez commandé, gardez pour vous seul certaines choses, où vous verrez que je dépasse les bornes. Il n'y a pas de raison suffisante pour m'empêcher de délirer quand le Seigneur lui-même me met hors de moi. Vraiment, je me demande si c'est bien moi qui parle depuis que j'ai commencé ce matin. Tout ce que je vois me semble un songe et je ne voudrais voir que des âmes atteintes du mal dont je suis moi-même atteint en ce moment. Je vous en supplie, mon Père, soyons tous des insensés pour l'amour de celui qui, par amour pour nous, a été outragé de ce nom. Ça, c'est tout à fait Sainte Thérèse. Elle obéit, elle écrit, elle fait. Puis tout d'un coup, elle dit, mais quoi? Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est bien Dieu? Où est-ce que c'est ma... Ça, c'est... On voit très très bien ce réalisme profond d'un don total qui fait que Dieu la prend, elle sait qu'elle est hors d'elle-même, que c'est plus elle. Alors, elle souligne aussi, et c'est important pour nous, que l'humilité est plus grande et plus profonde que dans le degré précédent. Ça, c'est Sainte Thérèse qui essaie de préciser les effets des grâces d'union, des grâces de quiétude et de ces grâces plus fortes et plus véhémentes. Vous savez bien que pour Sainte Thérèse, il y a deux critères. Le zèle de la charité fraternelle et l'humilité. C'est toujours le signe que l'oraison est bien de Dieu. N'importe quel degré, ça. Le zèle de la charité fraternelle. Alors voici ce qu'elle nous dit ici. Son humilité est beaucoup plus grande et plus profonde que dans l'oraison précédente. Elle voit plus clairement qu'elle n'a fait ni peu ni beaucoup pour l'obtenir. Elle a seulement consenti à ce que des faveurs et à ce que sa volonté les accepte. Ce mode d'oraison est, à mon avis, une union très manifeste de l'âme tout entière avec Dieu. C'est l'âme qui est entièrement saisie par Dieu, dans la charité, dans l'amour. Néanmoins, le Seigneur veut, ce semble, permettre aux puissances de comprendre et de goûter les grandes choses qu'il opère alors. que cela peut être et que vous le compreniez lorsque vous en serez favorisé. Ça, c'est Sainte Thérèse qui donne des bons conseils. Comme j'en ai été moi-même tout interdite, je veux en parler ici. L'âme comprend que sa volonté est entraînée et dans la jouissance. Cette puissance seule coûte une quiétude très grande. L'entendement, au contraire, et la mémoire conservent une telle liberté qu'ils peuvent s'occuper d'affaires et se livrer aux œuvres de charité. Et quand elle dit, à propos de cela, on joue sur deux claviers. La volonté, le cœur, est entièrement. Et Dieu laisse la liberté de réfléchir sur les choses essentielles. Je connaissais comme ça une sainte religieuse qui était enseignante. Et je crois que c'était tout à fait authentique. Parce qu'elle disait, sans du tout se référer à Sainte Thérèse, mais des choses tout à fait identiques. Certaines fois, elle faisait son cours. Elle le faisait très bien. C'était une enseignante très fine et très intelligente. Et son âme était entièrement prise. Entièrement prise. Et elle faisait son cours. Alors, on ne doit pas essayer de faire ça. Surtout quand on fait la cuisine. Parce qu'alors, ça n'irait pas. On doit être attentif à ce que Dieu demande de faire.
Soin extrême à ne pas se mettre dans l'occasion.
supposez même qu'elle ne la reprenne pas sans retard, elle ira de mal en pis. Il y a, je le sais, beaucoup à craindre dans ce cas. Ça, c'est très important, ce que dit Sainte Thérèse, là. Elle parle de l'horizon de recueillement et du troisième degré. Les deux se tiennent. Ce qui est vrai du deuxième degré, mais aussi du troisième. C'est que plus l'âme est prise par Dieu, c'est-à-dire plus elle s'agrandit dans l'amour, plus elle est vulnérable. Le Père Doux aimait beaucoup dire que les âmes d'oraison, quand elles poussaient l'oraison, devenaient comme des orchidées du Saint-Esprit. Et donc, des fleurs particulièrement fragiles qu'on ne devait pas trop secouer. C'est vrai que plus on aime, plus on est vulnérable, plus on est fort, c'est sûr, mais plus on est vulnérable aussi. Et donc, on doit, au point de vue prudence, comprendre qu'on ne doit jamais abandonner l'oraison. Vous ne pouvez pas faire des réserves d'oraison. Aujourd'hui, j'ai le temps de faire 4 heures d'oraison. Très bien, ça servira pour toute la semaine. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des réserves d'oraison. On peut, pour l'office, faire comme certains grands hommes faisaient dans le temps, vous savez bien, réciter à 11h du soir tout l'office de la journée et puis à 1h du matin tout l'office du lendemain. Alors on faisait comme ça pour que on soit sûr de le réciter. C'est pas à faire, ça. L'Église demande qu'il ne faut pas faire ça. Réciter normalement l'office aux heures de la journée, c'est fait pour ça. Des petites pauses. Mais quand il s'agit de l'oraison, on ne peut pas faire de réserve. Et c'est ça qu'elle veut souligner. Et ça, je crois que c'est très important de comprendre ça. J'ai connu une personne qui restait 8 heures en cet état sans perdre le sentiment et sans rien éprouver des choses de Dieu. Quelqu'un comprit ce que c'était. Il l'obligea à dormir, à manger et à modérer ses pénitences. C'est ainsi qu'il la délivra. Donc, autrement dit, elle montre que l'excès d'ascèse, parce que c'est juste cet excès d'ascèse, je voulais vous prémunir contre un péril dont je vous ai déjà parlé ailleurs, et dans lequel j'ai vu tomber des personnes d'oraison, et surtout des femmes. Comme nous sommes plus faibles par nature, il y a aussi plus de motifs d'exposer ce que je vais dire. Voici ce dont il s'agit. Quelques-unes, par suite de leur grande pénitence, de leur oraison et de leur veille, et même sans cela, sont une complexion très délicate. Si elles reçoivent quelques consolations spirituelles, leur nature succombe. Lorsqu'elles éprouvent un certain contentement intérieur et une défaillance extérieure, ou cette faiblesse qui arrive dans le sommeil des puissances qu'on appelle spirituelles, et qui est quelque chose de plus élevé que ce que j'ai dit, il leur semble que c'est tout un. Elles se laissent aller à une sorte d'enivrement. Plus elles s'y laissent aller, et plus l'enivrement augmente, parce que leur nature se débilite toujours davantage. Elles s'imaginent qu'il s'agit vraiment d'un ravissement. Pour moi, j'appelle cela de la niaiserie. Car elles ne font pas autre chose alors que de perdre le temps et de ruiner leur santé. La grimace de l'horizon de quiétude. On se laisse prendre par cette joie intérieure. C'est ce que le Père Doux aimait dire, la différence entre le petit chat qui ronronne auprès du feu et le vol de l'aigle. Ça, c'est le petit chat. Ah, il est heureux. Oh, c'est merveilleux. J'ai des grâces en raison. Ah oui, c'est l'oraison d'union. Ce que Sainte Thérèse appelle l'oraison d'union. Comprenez bien, il ne faut pas classer trop ces choses d'une manière trop absolue. Quant au mode et à la nature de cette oraison qu'on appelle union, je ne saurais les faire comprendre. La théologie mystique l'enseigne, il est vrai. Mais les termes dont elle se sert me sont inconnus. Je ne comprends pas ce qu'il faut entendre par intelligence ou esprit, ni comment ils diffèrent de l'âme. Tout cela me semble une même chose. Parfois, cependant, l'âme sort d'elle-même comme un feu ardent qui est transformé en flamme et qui parfois grandit avec impétuosité. Alors cette flamme s'élance très haut, au-dessus du feu. Mais elle n'est pas pour cela d'une autre nature. C'est toujours la flamme du feu. Vous, mes pères, éclairés comme vous l'êtes, vous le comprendrez facilement. Pour moi, je n'en saurais dire davantage. Ce que je prétends expliquer, c'est ce que l'âme ressent quand elle se trouve dans cette divine union. Ce qu'il faut entendre par union, on ne l'ignore pas. C'est l'état de deux choses qui étaient divisées et n'en font plus qu'une. Oh mon Dieu, quelle bonté est la vôtre. Soyez bénis à jamais. Que toutes les créatures, oh mon Dieu, chantent vos louanges. Votre amour pour nous est tel que nous pouvons parler avec vérité de cette communication que vous avez, même dès cet exil, avec les âmes. S'il s'agit d'âmes vertueuses, c'est déjà une largesse et une magnanimité extraordinaire, une faveur enfin digne de vous, mon Dieu, qui donnez d'une manière conforme à votre nature, aux libéralités infinies, que vos œuvres sont magnifiques. Bon, on voit très bien ce qu'elle veut dire. La créature est loin, infiniment loin du Créateur. Par la charité, cette unité. Une union substantielle de l'âme dans ce qu'elle a de plus profond, avec Dieu dans ce qu'il a de plus propre à Dieu. Je vous lis encore ce petit passage. Ainsi, quand je commençais à parler de cette dernière eau, donc c'est la dernière eau, celle-là, hein, il me semblait, mais c'est toujours de l'eau bouillante, hein, vous comprenez bien, parce que c'est toujours uni à Dieu, donc on est dans le feu, dans la flamme. Ainsi, quand je commençais à parler de cette dernière eau, il me semblait plus impossible de continuer ma tâche que de parler. Et de fait, la difficulté n'en est pas moindre. Je laisse donc là mon travail et je m'en vais communier. Oh, béni soit le Seigneur qui vient ainsi au secours des ignorants. Mais c'est très joli que lorsqu'il s'agit de cette dernière oraison, Sainte Thérèse comprend qu'elle ne peut rien en dire. Il faut la théologie mystique. Ça, c'est les théologiens. Ça ne me regarde pas. Elle ne fait pas du tout une œuvre de théologie mystique. Elle dit ce qu'elle a vécu. Oui, et ça, c'est dit très nettement. Alors. Cette eau du ciel, elle va quand même revenir, bien qu'elle ne peut rien dire. Elle en dit quand même. Cette eau du ciel tombe souvent lorsque le jardinier y pense le moins. Dans les débuts, il est vrai, ce n'est généralement qu'après une longue oraison mentale. L'oraison mentale, la méditation, la prière et qui tend vers l'oraison de quiétude. Car le Seigneur, après avoir conduit de degré en degré ce petit oiseau, le place enfin dans le nid pour qu'il y repose. Et on voit très bien le petit oiseau. Qui ne sait pas très bien voler, qui bat des ailes à des force enfin pour chercher son Dieu et lui plaire. Il veut lui donner une récompense, même en cette vie. Et quelle récompense magnifique! En un instant, l'âme est dédommagée de tous les travaux d'ici-bas. Tandis qu'elle cherche ainsi son Dieu, elle sent au milieu des délices les plus profonds et les plus suaves, une défaillance presque complète. C'est une sorte d'évanouissement qui enlève peu à peu la respiration et toutes les forces du corps. Aussi, on ne peut qu'au prix des plus grands efforts faire même le moindre mouvement des mains. Les yeux se ferment sans qu'on le veuille. Si on les tient ouverts, on ne voit presque rien. Si on lit, on ne peut prononcer les lettres, à peine même si on les distingue. On voit bien qu'il y a une lettre, mais comme l'entendement ne prête pas son concours, on est incapable de lire, malgré le désir qu'on pourrait en avoir. On entend ce qui est dit, mais on ne le comprend pas. Ainsi, les sens ne servent plus de rien à l'âme, si ce n'est pour ne pas la laisser tout entière à sa joie. Ils sont pour elle un obstacle plutôt qu'un secours. Mais ça, c'est le réaliste d'en haut. C'est pas la méthode Vitose. C'est le réaliste d'en haut. C'est le dépassement des sens pour immédiatement être dans le réaliste de l'amour divin, qui nous saisit immédiatement. Parce qu'il y a double réalisme, faut jamais l'oublier. Il y a le réalisme des sens externes, c'est très bien ça. Pour notre prudence, c'est nécessaire. Et puis un réalisme beaucoup plus grand. Alors c'est le réalisme de l'Esprit Saint. Et ce réalisme de cette intériorité de l'Esprit Saint, c'est bien un réalisme. On n'est plus dans l'ordre de l'intentionnalité. On est dans l'ordre de la substance, contact avec la substance. C'est pour ça que c'est du réalisme, parce que si vous étiez dans l'intentionnalité, dans la méditation, vous êtes dans l'intentionnalité. Dès qu'il y a oraison, il y a quelque chose de substantiel. C'est le passage vers quelque chose de substantiel. Cette oraison, quelque longue qu'elle soit, ne cause aucun préjudice à la santé. Du moins, elle n'en a porté aucun. Si malade que je fusse lorsque Dieu m'accordait cette faveur, je ne me souviens pas d'en avoir été incommodé. Bien au contraire, j'en éprouvais une amélioration très sensible. Les effets extérieurs de cette grâce sont très sensibles. On y reconnaît d'une manière certaine l'agent puissant qui nous a enlevé les forces avec tant de délices pour nous restituer plus grande. Mais ça, c'est vraiment l'action de l'Esprit Saint intérieur qui prend tout et qui, lorsqu'il le veut, nous remet entièrement dans cet aspect, dans cette union divine. Alors, comprenons, pour finir, parce que c'est l'heure, comprenons que, de fait, quand je regarde ces trois oraisons successives, l'oraison de quiétude, l'oraison qui est quelque chose de plus profond, qui est comme un intermédiaire entre l'oraison d'union, parce que c'est comme un intermédiaire. C'est très net. C'est toujours le même mystère que saint Thomas dit d'une façon très directe en théologien. Transformation de notre cœur dans le cœur du Christ qui se fait par la charité. Transsubstantiation mystique. C'est notre cœur changé dans le cœur du Christ. Alors, cette transsubstantiation, c'est ce changement qui se fait par l'amour et dans la charité, se fait dans des degrés divers, avec des intensités diverses, c'est sûr. et s'exerce selon un mode divin. Par les dons du Saint-Esprit, il y a tout de suite en raison d'union. Sainte Thérèse, elle voit les propriétés. Saint Thomas dit la réalité. C'est pour ça qu'au point de vue théologique, c'est toujours important de ne pas rester à un aspect descriptif, mais de tendre vers le point de vue théologique. Dans le point de vue théologique, on peut dire que dès qu'il y a l'action de l'Esprit Saint, et que la charité s'exerce sous le don sagesse, il y a oraison d'union qui peut connaître des intensités infinies dans la variété. Mais tout de suite, oui, il ne faut pas que la propriété cache le mystère. Et ça, saint Thomas le dit tout de suite en commentant les noces de Cana. Il n'hésite pas de le dire. Il le dit comme une exigence propre de la charité. La charité implique la transformation de notre cœur dans le cœur du Christ. Et donc, quand nous faisons des actes de charité et que l'Esprit Saint nous aide à entrer vraiment dans ces actes de charité et que nous sommes un peu saisis par la présence de Jésus, par la présence du Christ qui est là pour nous, immédiatement, il y a cette intériorité substantielle. Et donc, c'est le cœur de Jésus qui s'empare de notre cœur. Et donc, il y a tout de suite une raison, il y a tout de suite une raison d'union. On le sent bien, du reste. C'est descriptif, elle passe de l'un à l'autre, hein, sans trop, sans mettre des... Et je crois qu'il faut, au point de vue théologique, comprendre il y a des intensités infinies. Et le Père de haut a ajouté, à propos justement de tout ce que saint Jean de la Croix disait et que sainte Thérèse disait, le Père de haut disait, si Marie nous est donnée d'une façon spéciale, nous touchons tout de suite ce qu'il y a d'essentiel à l'oraison d'union. Et le Père Théo disait même le mariage mystique. Si Marie est là, parce que Marie permet que toutes les étapes normales soient comme brûlées. La hâte de Marie. Et je crois que ça, c'est très, très juste. Vous voyez, ça rejoint ce que dit saint Thomas, c'est que Marie est toujours présente à l'oraison, mais elle joue un rôle plus ou moins grand, suivant que nous lui demandons. Mais quand on demande à Marie de jouer ce rôle qu'elle peut jouer, elle le joue pleinement. Et à ce moment-là, elle nous fait tout de suite vivre du mystère de l'oraison dans ce qu'il a de plus divin. Donc le mystère de l'unité dans l'oraison. Ce mystère de transformation de notre cœur dans le cœur du Christ. C'est pour ça qu'on ne doit pas tellement se tâter le pouls pour savoir où est-ce que je suis dans l'oraison. Non. Ce qu'on doit voir, c'est que l'oraison augmente en nous la pauvreté. Oui, j'aime te dire que la méditation nous enrichit. Et que l'oraison nous appauvrit toujours. Pour moi, c'est le grand signe. C'est que toute oraison nous appauvrit et donc nous rend plus humbles, plus petits, plus pauvres, plus dépendants de l'Esprit Saint. Et l'oraison nous donne une plus grande charité fraternelle. On ne compte plus dans le don aux autres. On n'a plus rien à soi, puisque ça appartient au Saint-Esprit, puisque ça appartient au cœur de Jésus. Alors on est entièrement donné, et donc la charité fraternelle s'intensifie. Ce qui n'empêche pas, quand on est dans les formes, quand on doit se former, qu'on doit travailler, que le Saint-Esprit réclame de nous des temps de travail, c'est bien évident. Parce qu'il le demande, c'est la docilité au Saint-Esprit, ça. Mais on le fait dans l'obéissance au Saint-Esprit. On ne le fait pas pour se garder du temps. C'est très différent. Vous voyez, tant que vous gardez du temps pour votre travail, vous êtes toujours de mauvaise humeur quand on vient vous déranger. Tandis que quand vous gardez du temps par obéissance au Saint-Esprit, on vient vous déranger, ça vous est égal. Puisque c'est la volonté de Dieu qui se manifeste comme ça. Vous n'avez rien gardé pour vous. Vous savez que c'est la chose la plus difficile, c'est d'être pauvre quant au temps. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre monde d'aujourd'hui. Parce qu'on est tous très avares du temps. Si on n'est pas un dilettante, hein, si on est un dilettante, c'est autre chose. Alors on brûle le temps. Et on est heureux que ça brûle. Mais si on n'est pas un dilettante et qu'on est un travailleur, on a le sens du travail. Alors le temps prend une très grande valeur. Et la chose la plus difficile, c'est d'arriver à être pauvre quant au temps qui nous est donné. Le brûler entièrement pour Dieu. Alors quand Dieu nous demande de travailler, nous travaillons. Quand Dieu nous demande d'être dans la charité fraternelle et le service,